Radio Kapi.
Le journal, c'est avec vous grâce à Mzati Masanzi.
À l'ouverture de ce journal, nous faisons le point de la situation à Bukavu au sud Kivu où un calme relatif est revenu cet après-midi dans plusieurs coins de la ville après une panique généralisée observée dans la matinée à la suite de la présence des rebelles du M23. Ces derniers font l'opération de ratissage pour neutraliser les jeunes qui détiennent encore les armes et rapportent des témoins sur place. Plus de 3500 personnes déplacées de Kwamuto Maindombe ayant fui les exactions de la milice Mobondo vivant dans la province du Kwilu sont ciblées pour le projet dénommé Réponse multisectorielle d'urgence et d'appui à la résilience des déplacés dans les zones de santé des Bandundu et des Bagata. Le but du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des déplacés les plus affectés par l'insécurité alimentaire. Le choléra sévit dans les zones de santé de Kalemie et de Niemba dans la province de Tanganyika. Cette situation est due à la consommation d'eau non traitée provenant du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Nous en parlons dans ce journal avec notre invité Germain Kalunga, superviseur chargé des soins de santé primaire dans la zone de santé de Kalemie. À toutes et à tous, bonsoir. Notez tout d'abord que le secrétaire général des Nations Unies a rencontré hier à Addis Abeba en Éthiopie la première ministre et chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka. Ils ont discuté de la situation à l'est de la RDC et des efforts des pays régionaux en cours. Le secrétaire général a réitéré l'engagement des Nations Unies à fournir une assistance humanitaire aux populations dans les besoins. Et pour cette réaction du gouvernement congolais qui dit suivre de près la situation à Bukavu où l'armée rwandaise et ses supplétifs ont fait leur entrée ce matin. Dans un communiqué publié sur le compte X du ministère de la Communication et des Médias, ils dénoncent une violation flagrante des résolutions de Dar es Salaam et des appels au cessez-le-feu malgré l'implication de la communauté internationale, y compris le président Macron. Il accuse les Rwandais de persister dans une politique d'occupation, des pillages et des violations graves des droits humains sur les territoires congolais. Le gouvernement assure qu'il met tout en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. Il appelle par ailleurs la population de Bukavu à rester chez elle et à éviter tout risque face aux forces d'occupation. Justement sur le terrain à Bukavu, retour progressif au calme sur différents endroits de la ville, alors que les rebelles poursuivent les opérations de ratissage pour neutraliser les jeunes qui détiennent encore les armes. Plusieurs sources affirment que les gens commencent à circuler et certains agriculteurs des Moudaka ont pu amener les légumes ce matin qu'ils ont vendus à l'entrée Isder. Un élément de Sifamaguru rendu par Ronéline Tibonera.
Au moins 60% de la population reste encore chez elle pour observer la situation et s'assurer, tandis que de courageux circulent dans les avenues pour s'enquérir de la situation, rapportent nos sources sur place. D'après ces sources, environ une dizaine de corps ont été visibles dans la matinée à différents endroits, notamment au Kansayo, au Feu Rouge, au port Bisengimana et aussi. Ces corps ont été évacués par des ambulances, mais aussi des volontaires qui les ont acheminés à la morgue. En outre, on parle de morts et des blessés parmi les militaires FRDC ce matin vers Brasserie. Une jeep de FRDC serait tombée dans une embuscade des rebelles. Les blessés ont été amenés à l'hôpital, disent nos sources. Cependant, à la prison centrale de Bukavu, une dizaine de détenus malades sont restés après les pillages et l'évasion de tous les prisonniers, nous sommes samedi. Ces détenus vulnérables solliciteraient de l'aide, notamment la nourriture, d'après les habitants proches de la prison. Tout a été détruit dans cette maison carcérale et certains meubles, notamment des lits en étage, sont en train d'être vendus dans les quartiers, ajoutent nos sources.
Merci à vous, Ronéline Tibonera, pour toutes ces explications. Cette progression des rebelles du M23, soutenue par l'armée rwandaise, pousse plusieurs habitants du Sud Kivu à fuir vers les Burundi. Quelle est la situation pour ceux qui se retrouvent à Bujumbura? Comment sont-ils reçus par les autorités burundaises? Écoutez le témoignage d'un Congolais depuis Bujumbura.
Je suis à Bujumbura, au niveau du point de contrôle de la commune de Mutimbuzi, où je venais en fait avec mon véhicule pour aller me ravitailler en carburant au niveau du Congo. Mais nous sommes bloqués ici depuis le matin parce que il n'y a pas de passage du côté congolais, surtout du côté burundais. Devant moi, je suis en train de voir passer plusieurs véhicules à bord desquels il y a des Congolais et des Burundais qui viennent du Congo et qui sont orientés directement vers les camps de la police de Gatumba ici. Donc là, sur place, ils sont triés. Les Burundais sont séparés des Congolais et ils sont relâchés sur présentation de leurs identités. Mais les Congolais aussi passent à l'interrogatoire. Donc un à un, chacun essaie un peu d'expliquer les mobiles de son entrée au Burundi. Il y en a aussi parmi les Congolais qui sont refoulés. Ceux-là qui n'ont pas de documents ou qui ne se justifient pas bien, ils sont en train d'être refoulés. Il y en a d'autres aussi qui sont orientés vers les camps des réfugiés. Donc sur place au camp de Gatumba, il y a le service de l'OIM, Organisation Internationale des Migrations, qui essaie un peu de poser des questions à ceux-là qui viennent de la plaine de la Ruzizi et d'Uvira.
Entre-temps, au Nord Kivu, des centaines de familles, des militaires et des policiers qui vivaient dans les cas de Katindo et à d'autres endroits vivent à la Belle Étoile depuis la prise de la ville de Goma. Après avoir fui le camp militaire de Katindo à la suite des affrontements, ces familles se retrouvent en errance, certaines dans des écoles, d'autres dans des familles d'accueil, d'autres encore dispersées ça et là, témoigne une mère de famille. Tous ces ménages, composés de femmes, d'enfants et des blessés de guerre, vivent difficilement sans aucune assistance, ayant tout laissé derrière eux en fuyant. Ces familles qui ont trouvé refuge dans les écoles de Goma sont aujourd'hui sommées par les responsables scolaires d'évacuer les salles de classe pour permettre la reprise des cours, ce que regrette Marie Solange, coordonnatrice de l'association Union pour l'entraide mutuelle. On l'écoute.
Quand ils sont entrés, ils ont tiré en désordre. Tout le monde a fui. Les gens sont morts. Nous étions obligés de quitter les camps. Ceux qui avaient la possibilité de prendre quelque chose l'ont pris, mais d'autres n'ont pas pu parce que cette guerre nous a surpris. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive dans la ville. Nous sommes sortis un dimanche. Chacun s'est réfugié là où il pouvait, car ça tirait beaucoup. Certains sont allés dans les écoles, d'autres dans des familles d'accueil. Là, ils n'ont même pas de médicaments en cas de maladie des enfants. En cas de décès, il n'y a même pas où enterrer. Beaucoup de gens sont blessés, d'autres sont amputés et ne sont pas soignés. Donc, nous vivons ici à Goma comme des poules, des gens sans valeur. Nos enfants qui ont l'âge de 14, 15, 16 ans courent beaucoup de risques. Ils sont considérés comme des militaires. On les prend n'importe quand.
Elle demande de l'aide à toute personne pour la survie des enfants. Nord Kivu toujours. Depuis 3 jours, les activités économiques tournent au ralenti dans la ville de Beni. Cette situation fait suite à l'appel des mouvements citoyens et des groupes de pression demandant à la population d'observer 2 journées sans activité, jeudi et vendredi, en signe des protestations contre l'assassinat de l'artiste et musicien Katembo Delcat Idengo, abattu par balle jeudi à Goma. Jusqu'à ce dimanche, les activités économiques n'ont toujours pas repris normalement. C'est ce que nous dit à Beni André Kitenge.
La plupart des magasins sont restés fermés depuis jeudi dans la ville de Beni, où beaucoup de commerçants hésitent encore à reprendre les activités. Ils disent craindre des manifestations spontanées qui pourraient éclater à tout moment avec l'annonce de l'arrivée de Goma du corps de l'artiste et musicien Katembo Delcat Idengo, un enfant du milieu très populaire dans la région. Boutiques, magasins et banques n'ont toujours pas repris leurs activités normalement. Les commerçants ne veulent pas prendre le risque d'ouvrir totalement leurs magasins pour éviter des actes de vandalisme habituellement enregistrés lors des manifestations des rues dans la ville. Des commerçants rencontrés au centre-ville disent attendre l'inhumation du musicien Delcat Idengo avant de reprendre normalement leurs activités. Cependant, certains opérateurs économiques qui accusent d'importantes pertes financières tentent de limiter les dégâts. Ils ouvrent partiellement les portes de leurs boutiques devant lesquelles ils sont assis, prêts à servir les rares clients qui passent par là. Pour éviter tout dérapage, le maire de la ville de Beni a appelé jeudi la population au calme et à ne pas recourir à la violence. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Et puis, les responsables des différents groupes Wazalendo au Nord Kivu réaffirment leur engagement à défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Samedi à Beni, ils ont rencontré le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, et ont réitéré leur soutien aux forces armées de la RDC. Dans une déclaration commune, ils se disent prêts à protéger l'intégrité du territoire national face aux ambitions expansionnistes de la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda. Écoutons un extrait de leur déclaration sélectionné par Ronéline Tibonera.
De réitérer notre engagement indéfectible de défendre l'intégrité du territoire national dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, commandant suprême, le FARDC, de la RADS ainsi que de la police nationale congolaise. De renforcer l'unité et la cohésion entre VDP et des forces armées. D'améliorer les liens avec les populations civiles. De mettre en place une coordination provinciale qui sera coordonné par les commandements des VDP. De la participation à la formation des militaires des VDP. et de l'implication dans la protection des éléments de FARDC en cas de nécessité. De lutter contre la prolifération des groupes armés incontrôlés qui ternissent l'image des VDP de manière isolée et de s'impliquer à faire respecter les droits de l'homme et du droit international humanitaire par tous les amis VDP.
Par ailleurs, le président et représentant légal de la communauté musulmane Ahmadiyya en RDC, Khalid Mahmoud Amir, appelle les différentes confessions religieuses à appuyer le ministère congolais des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, principalement en cette période des crises humanitaires dans les Nord Kivu et les Sud Kivu. Il a fait ses plaidoyers hier après échange qu'il a eu avec Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Pour le président de la communauté musulmane Ahmadiyya, la population en détresse de la partie est du pays a plus besoin d'un soutien à vivre et non vivre, des matelas ainsi que des médicaments pour les malades et blessés des guerres. Khalid Mahmoud Amir, dans cet extrait que nous propose Billy Vandutumba.
Elle nous a autorisé aussi, on a fait une prière collective aussi pour que notre Dieu et notre Seigneur puissent amener la paix dans notre pays. En fait, avant cette crise récente, la communauté a déjà contacté beaucoup de sinistrés des situations qui étaient hébergés dans différents camps. Alors nous avons essayé de les contacter, de les nourrir aussi. Actuellement aussi, nous sommes en train de voir sur le terrain comment on peut les approcher. La communauté est déjà en train de faire beaucoup d'œuvres sociales, beaucoup d'actions sociales dans le pays. Et prochainement, Inch'Allah, s'il y a une œuvre sociale que la communauté est en train de faire, nous allons informer et passer par le ministre aussi, parce que c'est ça qui est la collaboration pour ces œuvres sociales. Donc Inch'Allah, on va venir en aide aussi aux populations aussi.
18h12 dans ces studios de Radio Kapi en direct de Kinshasa, direction la province du Maniema. Une série d'activités de sensibilisation a été organisée par l'université de Kindu en faveur des étudiants sur le patriotisme. Ces activités de 3 jours qui se sont clôturées ce week-end par un culte a réuni les participants qui ont échangé autour de plusieurs sujets dont l'origine des conflits entre le Rwanda et la RDC. À l'issue de ces assises, il a été demandé aux étudiants et à tous les Congolais en ces moments de crise de s'abstenir de l'orgueil tout en cultivant l'esprit de sagesse et d'amour. On écoute le professeur Deogracias Kimenya Moussaïloa, recteur de l'université de Kindu, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
En organisant ces cultes, nous avons pensé qu'il était normal que dans les activités patriotiques, on puisse aussi montrer que la guerre ne se fait pas seulement sur le front du combat armé, des armes et autre chose. On peut aussi gagner la guerre et on peut aussi humaniser les conflits à travers une supplication au Seigneur afin qu'il attendrisse les cœurs des uns et des autres pour que lorsqu'on a utilisé les armes, on les dépose, on s'embrasse et qu'on revienne au bon sentiment pour l'établissement de la paix. En plus, nous associons toujours les étudiants à ce que nous faisons parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Qu'ils soient là. Hier, ils ont suivi des très bonnes conférences. Conférence qui a montré l'origine des conflits entre le Rwanda et le Congo. Conférence sur la théorie de la roue. Quand la roue tourne du côté de nos voisins qui ont leurs conflits, ça remonte sur notre responsabilité. Nous devons gérer notre hospitalité de manière à ne pas nous impliquer dans les troubles qui se passent ailleurs, qui causent des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité.
L'actualité, c'est aussi le lancement à Bandundu Okwilu par le gouverneur des provinces Jean-Mayo Mbongo Passi du projet Réponse multisectorielle d'urgence et d'appui à la résilience des déplacés dans les zones de santé de Bandundu et de Bagata. Il s'agit d'un projet du fonds humanitaire en RDC qui sera exécuté par l'ONG nationale Cause Rurale. Cela en faveur des 600 ménages, soit 3600 personnes sur les 1200 ménages de déplacés ciblés et a fui les exactions de la milice Mobondo Akwamut. Le but du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des déplacés les plus affectés par l'insécurité alimentaire. Des explications avec Irène Mbomaluzolo.
Pelagie Makedika est la coordonnatrice de l'ONG Cause Rurale. D'après elle, le projet dénommé Réponse multisectorielle d'urgence et d'appui à la résilience des déplacés dans les zones de santé de Bandundu et de Bagata en province du Kwilu cible au total 1200 ménages de déplacés de Kwamut pour une durée de 12 mois. Elle précise que sa structure qui met en œuvre ces projets du Fonds humanitaire RDC va appuyer au moins 600 ménages dont 240 à Bandundu et 360 dans les territoires territoire de Bagata. La même source ajoute que ce projet vient répondre à la première priorité de ces déplacés, qui est le secteur de la sécurité alimentaire. Pelagie Makedika.
À travers la sécurité alimentaire, nous allons apporter ce que nous appelons l'assistance d'urgence, c'est-à-dire qu'on va donner des vivres, des protections. À côté, nous allons faire la relance agricole. Nous allons donner aux ménages déplacés des semences maraîchères et vivrières pour qu'eux-mêmes soient capables de produire, de faire leur propre autonomisation. Nous avons ajouté une activité génératrice de revenus, c'est la distribution de moulins, manioc et à maïs. Et on va donner à chaque ménage un petit moulin à pâte d'arachide.
Ce projet va être exécuté dans 3 sites, à savoir la ville de Bandundu, la cité de Bagata et le secteur de Manzasai. Iran Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle sur la fréquence de la paix, la Société nationale d'électricité SNEL Lubumbashi déplore l'endommagement de son réseau, notamment par certaines entreprises qui creusent le long des artères pour placer les fibres optiques. Le dernier incident en date qui a plongé plusieurs quartiers de la ville dans le noir remonte au vendredi dernier. Pour le directeur provincial de la SNEL, cette situation a causé un manque à gagner considérable pour sa société. On écoute Jean-Marie Mutombongoy, directeur provincial de la SNEL Katanga, au micro de Jean Gandou.
Ils ont pêché le câble de puissance qui alimente notre sous-station Inilou. Et dans l'entretemps, nous avons pris des dispositions pour alimenter les points stratégiques qui sont la prison centrale de la Kasapa et également les cités universitaires, hormis les autres parties de la ville qui sont restées sans courant. Cela a causé un manque à gagner pour la SNEL estimé à plus de 500 000 $. Vous avez une partie du quartier Ewabora, une partie de Loano, une partie de Gambela 1, 2, 3. Et vous avez populations qui sont autour de CEDEM. Hormis ça, vous avez la régie des eaux, qui est un client à moyenne tension, et tant d'autres. Nous avons toujours dit que les ouvrages passent dans la servitude. Vous avez les tuyaux régie des eaux, vous avez la SNEL. Lorsque vous voulez exploiter les mêmes servitudes, venez à la SNEL pour que nous puissions regarder ensemble si à ce niveau-là, les câbles ne passent pas. C'est-à-dire, si les câbles passaient, nous allons désigner quelqu'un pour vous accompagner afin que nous puissions protéger votre ouvrage. Et vous devez savoir que lorsqu'on blesse ces câbles, les points deviennent faibles. Ça devient également une source de perturbations dans l'avenir. Or, nous devons éviter cela.
Actualité internationale.
18 mois après l'arrivée au pouvoir des militaires, la première journée des assises nationales a eu lieu au Niger. Lors de son discours d'ouverture, le général Abdourahman Tiani a réaffirmé que la durée de la transition serait fixée à l'issue de l'événement.
L'invité.
Une centaine de cas de choléra, dont un décès, sont enregistrés dans les zones de santé de Kalemi et de Niemba depuis la deuxième semaine de cette année. Face à cette situation, le superviseur chargé des soins de santé primaires dans la zone de santé de Kalemi explique que Kalemi est une zone endémo épidémique de choléra. À la base de cette situation, la population consomme l'eau du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga, qui est notre été. On écoute Germain Kalunga dans cet entretien avec Paul Munanga.
Monsieur Germain Kalunga, bonjour.
Bonjour.
Il y a résurgence des cas de choléra dans la ville de Kalemi. Comment se présente la situation?
Il est vrai que nous sommes déjà en épidémie de choléra depuis la deuxième semaine de l'an 2025. Nous avons commencé par 35 cas, mais la semaine passée ici, nous avons comptabilisé 73 cas uniquement pour la zone de santé de Kalemi. Mais il y a d'autres malades qui viennent de la zone de santé de Niemba qui sont comptabilisés au niveau des centres de traitement des maladies diarrhéiques.
Qu'est-ce qui explique le fait que chaque année, il y a des cas de choléra qui sont enregistrés ici dans la ville de Kalemi?
Kalemi, d'abord, c'est une zone endémo épidémique de choléra. Depuis les années 77, nous vivons des pics de choléra chaque jour, voire chaque semaine et chaque année. D'abord, il y a la présence du lac Tanganyika et aussi la présence de la rivière Lukuga qui fait que c'est dans les eaux que les vibrions cholériques sont en train de vivre. Alors le problème de l'insuffisance de l'eau potable au niveau de la ville et ses entourages, c'est ce qui fait que la population ne consomme pas assez de l'eau potable. Et voilà le fait d'utiliser l'eau non potable, ce qui fait que le choléra est en train de persister du jour au jour, de semaine en semaine, de mois en mois, des années en années.
Ça veut dire que la population consomme l'eau du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga?
Affirmatif. une grande population consomme l'eau de la rivière Lukuga et du lac Tanganyika, puisqu'il y a insuffisance de l'eau potable, beaucoup plus. Les robinets ne coulent pas, ça peut couler aujourd'hui, une semaine après, voire même deux fois le mois, trois fois le mois, ce qui fait que la population, en consommant cette eau, s'expose beaucoup plus à des maladies diarrhéiques telles que le choléra que nous sommes en train de parler aujourd'hui.
N'y a-t-il pas des sites de chloration d'eau ici à Kalemi?
Ici à Kalemi, en ville, si je peux parler des sites, c'est moins de 10. La zone de santé de Kalemi, c'est la plus de 400 000 habitants, avec 10 sites de chloration installés par la Croix-Rouge, c'est vraiment insuffisant. Et pourtant, d'habitude, en cas d'épidémie comme ça, nous allons au-delà même des 100 sites pour que la population ait un peu accès à l'eau potable.
Présentement, comment se fait la prise en charge des malades?
D'abord, il faut dire que la prise en charge des malades est gratuite au niveau de notre centre de traitement diarrhéique. C'est ce qui fait qu'il y a moins de décès, puisque dès que vous arrivez, on vous prend en charge, quelle que soit la durée, quelle que soit la quantité de sérum que le malade doit prendre. Donc, jusque-là, le soin est vraiment gratuit, 0 franc congolais. Même la fiche n'est pas payable.
Et les médicaments sont là?
Les médicaments, bon, nous trouvons les médicaments jusque-là à travers la DPS, donc la Division Provinciale de la Santé, qui nous rend les Ranger Lactate, les Estro et les autres intrants, les cathéters et autres pour la prise en charge des choléras, mais ça ne suffit pas. Normalement, chaque aire de santé se trouvant le long du lac, le long de la rivière Lukuga, devrait avoir un stock pour pallier à cette situation, ce qui n'est pas le cas.
Présentement, combien de cas vous enregistrez au niveau du centre des traitement des maladies diarrhéiques qui est installé ici à l'hôpital général de référence?
Nous avons commencé à 35 cas la deuxième semaine, 48, 50, 60, mais aujourd'hui nous sommes au-delà de 70 cas. Par exemple, la semaine passée, ici la semaine 6, le centre des maladies diarrhéiques seul, comme ça englobe les deux zones de santé, a accueilli 108 cas de choléra, dont 65 pour la zone de santé de Kalemi et 43 pour la zone de santé de Nyemba. Donc, ce qui fait que dans notre centre de traitement, on n'a pas moins de 60 malades par jour qui sont internés.
Quelles sont les mesures à observer pour prévenir cette maladie de choléra?
Les conseils que nous sommes en train de donner dans la plupart des cas à notre population de Kalemi, c'est d'abord de ne pas consommer de l'eau non chlorée. Donc d'éviter de prendre les aliments froids, il faut prendre les aliments chauds, il faut éviter que les enfants ou les adultes ne consomment pas cette eau impropre, donc il faut chlorer l'eau. Au besoin, il faut même bouillir l'eau, comme nous n'avons pas assez de sites de coloration, et aussi se laver les mains d'une façon quotidienne et éviter de prendre les aliments qui sont exposés sur la route à cause des mouches qui est vraiment le vecteur potentiel.
Monsieur Germain Kalunga, je vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Paul Mundanga. Par ici s'achève ce journal coordonné par Gilles Mister Bilanda et mis en onde par Billy Landry Bitou. Grâce à Mzati Masanzi était la présentation. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Suivez-nous également sur notre chaîne WhatsApp dont les liens se trouvent sur toutes nos plateformes digitales dont X et Facebook Radio Kapi. Merci.